7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Virginie Fulpin pour le journal.
La souveraineté européenne. Emmanuel Macron prononce un grand discours sur l'Europe en fin de matinée à la Sorbonne, à un mois et demi des élections. La souveraineté européenne, c'est aussi relocaliser la production de nos médicaments pour éviter les pénuries. C'est ce à quoi va s'atteler la nouvelle Alliance européenne du médicament. Et puis un adolescent de 16 ans arrêté en Haute-Savoie. Il préparait un attentat pour les Jeux Olympiques.
Après le journal, l'éditorial de Guillaume Tabar, suivi de l'invité de la matinale, Michel Vinocq, un de nos plus fameux historiens, et l'invité de 8h15 avec la publication de son Égo-histoire chez Bouquin. Emmanuel Macron plaide pour l'Europe à la Sorbonne.
7 ans après son dernier grand discours sur l'Europe, le président de la République remet le couvert dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Emmanuel Macron va s'exprimer à 11h ce matin devant les ambassadeurs des 26 autres pays de l'Union, des chefs d'entreprise, des étudiants. On est à un mois et demi des élections européennes et l'opposition accuse Emmanuel Macron de faire campagne pour soutenir son camp. Mais le chef de l'État entend surtout plaider pour ce qu'il appelle une Europe puissance, Lauriane Toulmont.
L'Europe est trop faible, trop lente, trop inefficace. Ces mots d'Emmanuel Macron prononcés à la Sorbonne en 2017, peu après son élection, avaient été fraîchement accueillis dans les États de l'Union, surtout en Allemagne. Cette fois-ci, l'Élysée l'assure, le président de la République a consulté le chancelier allemand Olaf Scholz, avec qui les relations sont tendues. Dans son discours, le président de la République va défendre son bilan à la présidence de l'Union européenne. Il se veut visionnaire d'avoir défendu dès 2016 avant tout le monde, l'idée d'une Europe souveraine. Son intuition s'est réalisée, se congratule un conseiller. Après la pandémie de Covid, avec la guerre en Ukraine et la rivalité sino-américaine, d'autres crises guettent. Emmanuel Macron entend donc invoquer un nouveau concept, la repuissance de l'Europe. Façon pour lui d'influencer l'agenda stratégique de l'Union européenne qui se décidera en juin prochain après les élections.
L'Europe qui cherche à éviter les pénuries de médicaments. L'Alliance européenne du médicament est née hier. La France et d'autres pays d'Union veulent renforcer les aides accordées aux entreprises pharmaceutiques qui relocalisent leur production en Europe. Pour l'instant, entre 60 et 80% des principes actifs des médicaments proviennent d'Inde ou de Chine. On parle encore de souveraineté européenne. C'est ce qu'on peut retrouver avec la création de cette alliance, Rémi Pfister.
Rien qu'en France, 5000 médicaments étaient en rupture de stock l'an dernier, c'est 30% de plus qu'en 2022. Amoxicilline, paracétamol, antidiabétique, des molécules pourtant indispensables qui manquaient partout en Europe, mais à des degrés divers. Cette alliance permettra désormais de centraliser les besoins et les stocks pour permettre des échanges de médicaments entre les pays. Associations de patients, médecins, pharmaciens et industriels, au total 250 acteurs échangeront étroitement au niveau européen. Autre volet très important, les relocalisations d'usines de médicaments. Pour le moment, chaque pays avance avec sa propre stratégie pour ne plus dépendre de l'Asie. L'Alliance permettra d'éviter qu'il y ait par exemple 27 usines de paracétamol en Europe, alors que 3 suffiraient. Les commandes publiques de médicaments pourront également se faire d'une seule voix, ce qui pourrait inciter des industriels à venir s'installer sur le sol européen. Au niveau réglementaire, l'Alliance réfléchit également à autoriser plus rapidement la mise sur le marché de certaines nouvelles molécules.
Tout le vert est effacé, ou presque. Le Parlement européen vient d'adopter une révision de la politique agricole commune pour apaiser la colère des agriculteurs. De nombreuses normes environnementales ont été assouplies, voire abandonnées.
Un adolescent arrêté en Haute-Savoie, il préparait un attentat en vue des Jeux Olympiques.
Et ce mineur de 16 ans a reconnu les faits pendant sa garde à vue. Il voulait commettre un attentat à Paris pendant les Jeux Olympiques. La justice antiterroriste s'est saisie du dossier. Cet adolescent était déjà surveillé, Nina Droff.
Oui, il était suivi de près pour radicalisation islamiste. Le jeune homme a été interpellé après avoir envoyé des messages inquiétants sur le réseau social sécurisé Telegram. Dans ses posts, il dit être à la recherche de matériel pour confectionner une ceinture d'explosifs et affirme vouloir mourir en martyr au nom de l'État islamique. En garde à vue, le jeune homme a avoué vouloir commettre un attentat dans le quartier de la Défense pendant les Jeux Olympiques pour ensuite mourir sous les balles des forces de l'ordre. Cette garde à vue, toujours en cours, vise à évaluer la réalité et le degré d'aboutissement de ce projet d'attentat. Une enquête a été ouverte pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Deux projets d'attentat ont déjà été déjoués en France depuis le début de l'année. L'un visant la cathédrale Notre-Dame de Paris et l'autre une boîte de nuit LGBT+ à Marseille. Les magistrats antiterroristes s'inquiètent de voir des individus de plus en plus jeunes planifier des actes violents.
Merci Nina Droff. C'est le plan social le plus important depuis le début de l'année. Le groupe Casino va supprimer entre 1300 et 3200 postes selon les reprises des magasins. La nouvelle direction a présenté hier son plan de réorganisation. Au siège historique de Casino à Saint-Étienne, plus de 500 postes sont menacés. Un coup dur pour ce fleuron de l'économie locale, Lucie Dupressoir.
Au siège de casino, la menace planait depuis plusieurs mois. L'annonce de la suppression de poste n'a pas surpris les salariés. Karine est manageuse à la direction des approvisionnements.
On reste dans l'inquiétude malgré tout. Personne n'est en mesure de savoir si son emploi sera maintenu. C'est pas parce que mon poste sera maintenu que je garderai mon emploi.
D'abord en intérim, elle a gravi les échelons chez casino et n'a jamais connu d'autre employeur en 17 ans.
J'ai pas forcément les diplômes correspondant à mon poste actuel. Est-ce que mon expérience va suffire ou est-ce que je vais devoir accepter un poste moins 10 ans? Et on va pas se mentir, le secteur géographique en termes d'emploi et de perspective de retrouver autre chose est aussi très inquiétant.
Car casino est le premier employeur privé de la métropole de Saint-Étienne, Quentin Bataillon, député Renaissance de la Loire.
J'ai pas dans ma circonscription une seule personne qui n'a pas dans sa famille quelqu'un qui a travaillé ou qui travaille au sein du groupe casino. C'est vraiment une fierté collective. Casino, en plus, a toujours été aux avant-postes de l'innovation. La chaîne du froid, c'est Casino qui l'a inventé. Le libre-service également. Le groupe Casino ne sera plus celui que nous avons connu.
Au-delà des postes, c'est aussi la question des entrepôts sur le territoire. Casino devrait garder le site de Corbas. Celui de Saint-Bonnet-les-Oules, au nord de Saint-Étienne, devrait être racheté par Intermarché.
Lucie Dupressoir pour Radio Classique.
Casino taille dans le vif pour se relancer. C'est aussi la une des Échos ce matin.
On rappelle qu'il vaut mieux ne pas prendre l'avion aujourd'hui. D'accord, le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens a levé son préavis de grève, mais les compagnies n'ont pas eu le temps de reprogrammer des vols. Ça veut dire que 75% de ces vols sont annulés aujourd'hui à Orly, 55% à Roissy, 65% à Marseille par exemple. David Sassé de l'orgue avec Olivier Latry aux manettes, ça nous change du rap du journal de 7h,
effectivement,
n'est-ce pas ? C'est éclectique.
On adore Olivier Latry sur Radio Classique, on l'a reçu ici même il y a 15 jours.
Notre-Dame de Paris va rouvrir ses portes le 8 décembre, 5 ans après l'incendie. Et pour l'occasion, la cathédrale va accueillir deux nouveaux organistes. Thierry Esquèche, déjà bien connu du public, détenteur de 5 victoires de la musique. Mais aussi un tout jeune organiste, Thibaut Fajol, à 21 ans. Il n'aurait jamais osé rêver à un tel poste.
C'est vraiment le Graal, Notre-Dame, lorsqu'on est organiste, c'est vraiment un poste qui fait rêver. Moi, je suis de la région parisienne, donc Notre-Dame, c'est un monument que je vois depuis que je suis tout petit, avant même d'avoir commencé l'orgue à 13 ans. C'est un lieu qui, je trouve, est absolument fascinant. Et en plus, on a la chance d'avoir à Notre-Dame le plus grand orgue de France, qui est l'un des plus beaux du monde. Et je n'oublierai jamais que ce qui fait que je fais de l'orgue, que j'ai été fasciné par l'instrument, c'est que j'ai pu assister à une visite d'orgue. Et donc, je souhaite pouvoir faire découvrir cet instrument. Et même si ce n'est pas pour créer une vocation, le simple fait de faire connaître cet instrument, je pense que c'est un bonheur absolu pour tout le monde.
Thibaut Fajol répondait à Marine Salaville. Et puis, les ailes du Moulin Rouge à Paris sont tombées cette nuit. On n'a pas encore d'explication. Personne n'a été blessé. La devanture du cabaret a été endommagée par la chute de ses ailes.
Les ailes du Moulin Rouge, c'est un patrimoine parisien. Réparation rapide, j'imagine. Merci Virginie, à demain. Dans un instant, Guillaume Tabar et son éditorial avec Le Figaro, suivi de l'invité de la matinale. Après avoir raconté la vie politique française, Clémenceau, Mitterrand, Mendès France, Victor Hugo, la fièvre hexagonale, Michel Vinocq, l'historien, raconte enfin sa vie dans une égo-histoire.